Il ne nous reste plus qu'à extraire pour vous de la Gazette des tribunaux où elles ont été publiées à leur date, des échantillons variés de ce qui s'y jugeait. Et voici le troisième livret. Maintenant, huissier, appelez les causes.
Affaire suivante.
Bien qu'en fin de compte, il y ait dans l'affaire une vieille dame tuée, le cocher qui l'a conduite nous prévient que nous allons rire. Soit. Après tout, cette vieille dame, personne ne la connaît. On ne sait ni qui elle est, ni ce qu'elle veut, ni où elle allait. Et nous n'avons aucune raison de ne pas rire s'il y a de quoi, comme l'affirme le cocher. Voyons donc, mais méfions-nous. Ce cocher est prévenu de voix de fait, et voici ce qu'il raconte.
C'est venu d'abord d'une vieille dame que je trimbalais depuis au moins 4 heures, et que je me disais, il y aura un bon pourboire, vu qu'elle avait des bijoux, des diamants, et que ça avait l'air d'une dame de la haute. Voilà qu'au coin de la rue d'Aboukir, elle descend. À ce moment-là, voilà une charrette qui arrive et renverse ma voyageuse, qui est tuée net. Vous allez rire.
Le président.
Le sujet prêt, en effet.
Non, mais tout à l'heure. Je descends, le monde s'amasse, je m'amasse avec, et je me dis, avec tout ça, qu'est-ce qui me paiera mes 4 heures? Là-dessus arrive un monsieur, vous allez rire. Il regarde la vieille dame, et il vocifère, tiens, ma belle-mère. Donc je me dis, alors je suis tranquille pour mes 4 heures. Là-dessus, je dis au monsieur que c'était moi qui avais conduit madame sa belle-mère. C'est bon, on la remet dans la voiture, il monte avec, et il me donne son adresse. Arrivé à l'adresse, j'aide à monter la vieille dame, et j'attends, me disant, le gendre s'en rapportera à moi pour le nombre d'heures, d'autant qu'étant très content d'hériter, il ne liardera pas. C'est bon, il se met à dire, mon Dieu, comment que je vais annoncer ça à mon épouse quand elle rentrera? Moi, je vais à l'antichambre, ne voulant pas lui parler de mes 4 heures dans ce moment-là. Justement même que voilà la femme de chambre qui accourt et qui dit « Voilà, madame, vous allez rire. » Là-dessus, le gendre réitère. « Mon Dieu, comment que je vais apprendre ça à mon épouse ?» Moi, je me disais, avec tout ça, si j'étais payé, je m'en irais. Mais je pensais bien que le temps que j'attendais, ça compterait. Pour lors, voilà la dame, qui voit des figures longues de ça et qui dit « Mais quoi qu'il y a donc ?» Mais quoi qu'il y a donc? Vous pensez, n'est-ce pas, comme on lui a glissé la chose en douceur? Pas moins, fallait y aller. Donc, en voyant ça, la petite dame crie « Ah, maman! Ah, maman !» Vous allez rire. « Où-ce qu'elle est ?» qu'elle crie. Son mari lui dit qu'elle est sur le lit. Elle y court. « Lui aussi! Moi aussi !» Alors la petite dame regarde. « Vous allez rire. » Elle se précipite ventre à terre sur la dame écrasée et elle dit « Tiens, c'est pas maman !» Si vous aviez vu la gueule du gendre, qui n'héritait plus. Et la mienne, vu que j'étais refait de mes 4 heures. Naturellement, puisque ce n'était pas la belle-mère de monsieur, il ne me devait rien.
« Eh bien !» S'il ne vous devait rien, pourquoi lui avoir réclamé de l'argent?
Je lui ai réclamé depuis qu'il m'avait mis sa fausse belle-mère dans ma voiture, et idem le temps que j'avais attendu chez lui. Là-dessus, il se fiche en fureur et il me dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que je vous ai dit d'attendre ?» Je lui réponds que je n'avais pas osé me faire payer dans un moment si tellement triste. Là-dessus, il me dit que j'étais un carottier, un filou, que j'étais resté exprès, et il veut me donner 30 sous. Je lui demande s'il se fichait de moi. D'abord, qu'une personne défunte, c'est plus cher qu'un simple voyageur. Alors il me dit, « Qu'est-ce que je vais faire de cette femme-là? Portez-la chez le commissaire de police, et je vous donne 40 sous. » C'est donc de là que je n'ai pas voulu, qu'on s'est chamaillé, que monsieur a cherché à me pousser dehors en m'offrant 30 sous, et que je me suis rebiffé.
Il fallait le citer devant le juge de paix, et ne pas le frapper.
Si vous croyez, dans ces moments-là, qu'on perd son argent, et qu'on vous bouscule avec ça, qu'on est maître de soi.
Le plaignant, entendu, déclare que, pour en finir, il avait donné 3 francs au cocher. qui en voulait 6. Le tribunal a condamné le prévenu à 3 jours de prison.
Affaire suivante. Bon père, mais pochard.
Il est toujours bon pour un prévenu d'avoir quelques qualités à son actif. Or, Boîtier est bon père, et le tribunal lui a tenu compte de cela. Depuis le jour de la naissance du rejeton, espoir de ses cheveux blancs, cet excellent père, à qui l'on n'aurait rien à reprocher, s'il ne se grisait pas et n'assommait pas sa femme, est en prison. Et ce qu'il pleure en parlant de ce fils qu'il brûle de presser sur son sein, ce n'est rien que le dire.
« C'est pas l'embarras, »
dit Madame Boîtier au tribunal.
« V'là un moutard qui est né sous un heureux hospice, comme disent autres. »«
Quel autre? Qu'est-ce qui dit que mon enfant est naquis dans un hospice ?»
Le président à la plaignante.
« Déposez. »«
Que je dépose ?»«
Oui, ton parapluie. »«
Je vous dis de faire votre déposition. »«
Bon, voilà. Dans les moments qu'il n'est pas mis couche, il me bat. Mais je me gêne pas pour lui jeter n'importe quoi à la tête. » Que pour ça, il n'a pas le fond méchant.
Oh non, oh non, oh non.
Seulement, c'est un homme qui boit.
Qui boit, qui boit. Qu'est-ce que tu dirais donc de falupier qui me rendrait 2 litres?
Taisez-vous donc.
Non, mais c'est pour dire.
Pas moins que, quand il a bu, c'est un homme féroce et carnassier.
Allons bon, je suis carnassier.
Et pour l'or, même qu'on l'a baptisé sans son joli père.
L'as-tu fait appeler Ernest?
Ernest Léonidas. Pour l'or que je lui dis, va-t'en chercher la chasse-femme. Comme il se pressait pas et que moi ça me pressait, je me fiche en colère et je dis, mais va donc chercher la chasse-femme. Et là-dessus, une querelle. Et il me fiche une gifle en me disant, tiens, ça te fera passer tes douleurs. Et une chose drôle, ça me les a fait passer.
Tu vois donc bien.
Alors étant un homme bon au fond, mais simplement buveur...
Elle me connaît comme si elle m'avait fait.
Il s'en va tout de même chercher la chasse-femme. Et il revient avec que, messieurs, il était content comme un bon Dieu quand il a vu que c'était un garçon. Et qu'il me dit, attends mon chou, je vais te régaler de bon vin, ça te remettra. Donc, qu'il va chercher 3 litres, qu'il en boit 2,5, et que le v'là saoule comme une pologne. Que j'étais furieuse, hein, comme vous pensez, du vin qui était pour me remettre. Une mère qui vient d'avoir un enfant.
Moi aussi, je venais d'en avoir un.
Finalement, qui me refile 2 autres gifles. Que la chasse-femme, qui n'avait jamais vu ça de sa vie, a crié au voisin d'aller chercher les sergents de ville. Qu'on l'a donc arrêté et que le baptême s'est fait sans lui.
Enfin, du moment qu'on l'a appelé Ernest.
Votre conduite est odieuse.
De ce que je m'en rappelle, j'étais complètement bu. Et mon pauvre moutard que je n'ai pas vu depuis sa naissance. Mon Dieu, canaille, va.
Le tribunal le condamne à 15 jours de prison.
Ça t'apprendra à boire.
Est-il bien utile que ça lui apprenne à boire?
Affaire suivante. 2 farceurs.
On dit que les meilleures farces sont les plus courtes, ce qui ne veut pas dire que les plus courtes soient bonnes. Exemple, la farce des 2 loustiques qu'on va connaître, qui est très mauvaise puisqu'elle les amène en police correctionnelle. Il est vrai que s'ils eussent suivi paisiblement les gardiens de la paix, ils en auraient peut-être été quittes pour une admonestation et quelques heures de violon. Mais ils ont gâté leur affaire par leur attitude envers ces représentants de l'autorité. De sorte qu'à la prévention d'outrage aux agents, une brave femme, à qui ils ont fait la farce en question, a joint une plainte en outrage public à la pudeur. Dire que le cœur y était pour quelque chose serait probablement injuste. Mais, en pareil cas, les mains suffisent. Ce genre de délit ne se commettant guère autrement. Mentionnons, du reste, avant d'arriver à la jolie plaisanterie de crevassier et persillon, qu'ils n'en sont pas les inventeurs. La victime est une paysanne, et voici ce qu'elle raconte.
J'étais venue apporter à Paris des petits fromages à la crème. Pour lors, je criais ma marchandise à la rue, quand voilà ces deux hommes qui me disent « Combien les fromages ?» Moi, je leur réponds que c'est 4 sous. « Bon, qu'ils disent, donnez-nous-en chacun un. » Je pose mon panier à terre et j'y prends d'abord un fromage que je présente à ce monsieur-là.
Crevassier.
Eh bien que je lui dis, dans quoi donc vous allez le mettre ? Dans le coin de mon mouchoir qu'il me fait, sans crème. Moi aussi, dit l'autre. Voyant ça, je dis, c'est bien, et je mets le fromage dans le mouchoir de monsieur. Je reprends un second fromage, je le mets également dans le mouchoir de l'autre, et je me baisse pour remettre la serviette sur mon panier. Ah, monsieur, à ce moment-là, je sens quelque chose de froid et de mou qu'on me colle sur le derrière. C'était ce polisson-là qui avait passé la main sous mes jupons pendant que j'étais courbée et qui m'avait plaqué son fromage. Je jette un cri, je me relève comme un ressort. L'autre vaurien, qui guettait ce moment, m'envoie son fromage dans la figure. Et ils se sauvent tous les deux. Je ne savais plus où j'en étais. J'avais du fromage plein les yeux, plein le nez, plein la bouche. Et j'entendais qu'on riait autour de moi, vu que le monde s'était amassé. Alors j'ai crié « Au secours, à la garde !» Que là-dessus, il est arrivé des sergents de ville qui ont arrêté ces deux mauvais sujets qui se sauvaient et on nous a conduits tous trois chez le commissaire de police.
Les deux prévenus partagent l'hilarité générale.
Ah, vous trouvez ça risible ?
Crevassier.
C'était pour rire que nous avons fait ça.
C'est une bien jolie plaisanterie.
Persillon.
Venant de déjeuner étant un peu rigolo, alors c'est comme ça que ça nous est venu.
Plein les yeux que j'avais du fromage, que ça aurait pu me faire perdre la vue. Qu'est-ce que je serais devenu si j'avais perdu la vue ?
Aveugle, probablement. Mais la question est vidée sur ce chef de prévention. Et nous passons aux outrages des agents de la force publique, qui ne pouvaient pas avoir de succès après les fromages. C'est le seul chef, d'ailleurs, sur lequel il y ait eu condamnation. 6 jours de prison pour chacun de nos farceurs. En revanche, ils ont eu un succès que n'aurait pas augmenté le baume exhilarant contenu dans l'eau présentée par l'ange à Agar.
Affaire suivante. Le fiacre cuisine.
Les uns font leur omelette à la cuisine. C'est la majorité. Blondin fait la sienne sur une corde au-dessus du Niagara. C'est la très rare exception. Chaussepied, lui, l'a fait où il sera dit tout à l'heure. C'est de la haute fantaisie. Bref, chacun fait son omelette où il peut. Notre homme est prévenu de vagabondage et, en outre, de voies de fait et d'escroquerie envers un cocher de fiacre. Ce cocher raconte ainsi le fait dont il se plaint.
« Monsieur me prend à la barrière du Maine et me dit de le conduire à l'entrée du passage Vendôme, un assez joli ruban de queue, comme vous voyez. Il avait sous le bras un gros paquet. Je monte sur mon siège et ouvre la partie. Au bout de 7 ou 8 minutes, peut-être 10, je sens comme une odeur de crêpes. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui fait des crêpes par ici, une friturière probablement. Je regarde à droite et à gauche, je ne vois pas de marchande de friture. Avec ça, que l'odeur continuait à me suivre. Je reniflais, et je reniflais, et je me disais, mais sacristi, où que ça sent la crêpe comme ça ? Enfin, en me retournant, je vois des personnes qui regardaient d'un air inquiet dans ma voiture. Et voilà une femme qui me dit « Mais il y a le feu dans votre voiture !» Je regarde et je vois effectivement une flamme. J'arrête mes chevaux Je penche ma tête à la vitre de devant, et qu'est-ce que je vois ? Monsieur, ayant d'une main une espèce de petit plat en fer blanc qu'il tenait par la queue, et au-dessous duquel il tenait une grosse corde, comme qui dirait une torche enflammée. Et dans le plat, il y avait une omelette en train de cuire. Je descends dardard de mon siège, j'ouvre la portière et je dis à mon voyageur « Est-ce que vous vous fichez du monde de prendre ma voiture pour une cuisine et d'y faire des omelettes dedans ?» Il me répond que ce n'est pas défendu, qu'on peut faire dans une voiture ce qu'on veut. Eh bien, que je lui réponds, nous allons voir si vous avez le droit de risquer de mettre le feu à ma voiture, et de me l'attacher, et de l'empoisonner, et que, messieurs, mais c'était une infection, et que par terre, il y avait des coquilles d'œufs, et l'assiette où il avait battu ses œufs, qu'il en avait dégouliné, et que ça avait fait des taches. Là-dessus, comme il s'était amassé du monde, et qu'un sergent de ville était accouru, je lui ai conté l'affaire. Le sergent de ville a fait descendre monsieur, et il lui a dit de me payer. Il n'avait pas de quoi. Il avait 12 sous. Tout le monde disait que c'était un pari qu'il avait fait, et je le croyais aussi. Finalement, que, n'ayant pas de quoi me payer, le sergent de ville lui dit de venir chez le commissaire de police. Alors monsieur se retourne vers moi et me dit « Ah, tu me fais arrêter, tiens !» Là-dessus, il me flanque 2 gifles. Ah, mais aux petits oignons, hein !
Le président au prévenu.
Ce qui vient d'être raconté par le témoin est l'acte d'un homme ivre. Et cependant, vous n'étiez pas ivre. C'est aussi l'acte d'un homme qui a fait une gageure. Et vous n'aviez pas fait de gageure. Alors, expliquez donc votre conduite.
Oh, c'est bien simple. N'ayant pas de domicile, je me fais ma petite peau-bouille comme je peux.
Ainsi, c'est votre habitude de faire votre cuisine dans des voitures ?
Quand il fait beau, je m'en vais à la campagne sous un arbre, je fais cuire des saucisses, du boudin, n'importe quoi. Je n'aime pas la gargote. J'ai été habitué à la cuisine de ménage. Je me suis acheté avec mes économies un plat en fer battu, une fourchette, une assiette et un verre. Alors, je m'arrange comme je peux.
Avec vos économies ? Quelles économies ? Quelle est votre profession ?
Marchand de perroquets.
Vous êtes marchand d'oiseaux ?
Je ne tenais que le perroquet. J'en ai rapporté des îles 20. Je les ai tous écoulés et je vis sur ce qui reste de ma vente. J'étais cuisinier sur un navire marchand et c'est, comme je vous dis, des îles que j'avais rapporté des perroquets. Je leur avais appris à parler, ce qui fait que j'en ai tiré un bon prix.
Mais où couchez-vous donc ?
La nuit, je me promène. Le jour, je vais à la salle des ventes ou à la correctionnelle et je dors là, tranquillement, 2 ou 3 bonnes heures. Ça me suffit.
Oui, enfin. C'est une existence de vagabond. Vous êtes, en outre, prévenu d'escroquerie. Vous aviez pris une voiture et vous n'aviez pas de quoi payer la course.
Ce n'est pas de l'escroquerie. On s'arrange toujours avec les gens. Je me serais arrangé avec le cocher s'il ne m'avait pas fait arrêter. Je compte me rembarquer comme cuisinier et rapporter des perroquets et quelques singes. J'étais toujours bon pour 30 sous. Pensez, monsieur, seulement 20 perroquets et 30 singes qui ne me coûtent rien, ça me fait tout de suite 500 à 600 francs. Ainsi, je me disposais à partir au Havre pour trouver à m'embarquer, comme je vous ai dit. Si le cocher veut, je suis prêt à lui signer un bon pour un perroquet ou pour un singe, à son choix.
Le cocher.
J'aime mieux mettre en dessous.
Le tribunal a condamné le marchand de perroquets à 3 mois de prison.
Affaire suivante. Altéré par caractère. Altéré par caractère.
Les époux Birois sont devant le tribunal. La femme à la barre des témoins, le mari sur le banc des prévenus. Birois interrogé donne ses noms, âge et profession, puis se tournant vers sa femme.
Ah, c'est propre ce que tu as fait là.
Je t'en ai prévenu qu'un jour ou l'autre tu serais sur le banc des malfaiteurs.
J'y viens pur comme 2 et 2 font 4.
Le président.
Voyons, femme Birois, adressez-vous au tribunal.
Je viens exprès pour ça.
Eh bien, de quoi vous plaignez-vous ?
Je me plains que c'est un homme que si on ne me retire pas de ses mains, je finirai en 4 morceaux.
Ha ! Tu m'arraches des sourires.
Les témoins sont là pour dire que c'est un homme qui ne désivre pas et qui me bat tous les jours de la semaine, quelquefois plus.
Les témoins, je les méprise comme un verre d'eau.
Le président à la plaignante.
Enfin, précisez des faits et ne restez pas dans les généralités.
Elle ne sait seulement pas où c'est.
Voulez-vous vous taire ?
À la plaignante.
Quand votre mari vous a-t-il porté des coups ? Et quel coup ?
Quand ? Mais toujours ! Un feignant qui bat le pavé du matin au soir.
Ah, bon, c'est le pavé que je bats à présent.
Oui, et moi le soir en rentrant.
Mais le jour de la scène, quel coup vous a-t-il porté ?
Il m'a jeté son manger à la figure.
Vous a-t-il fait des blessures ?
Non, c'était de la panade.
Il ne vous a pas jeté le plat avec ?
Non, mais la panade m'a emberné la figure. Flouc ! Que j'ai mes effets massacrés.
Et toi, le jour que tu t'es assise sur mon chapeau, est-ce que je t'ai traîné devant le tribunal ?
Enfin, reconnaissez-vous que vous maltraitez votre femme ?
Quand je suis en ribote, naturellement.
Comment naturellement ?
Il y est tous les jours.
Écoutez, mon président, vous ne pouvez pas savoir. Les femmes, ça vous a comme ça des airs devant le monde. Mais cette femme-là, mon président, serait à un noble, à un notaire, à quelqu'un de la haute, qui lui ficherait des piles. Je suis d'une bonne famille, moi. J'ai même eu une position dans les chemins de fer.
Quelle position ?
Cette position-là.
La plaignante tendant le bras.
Quand les trains passaient, il était cantonnier.
Ouais, et elle me buvait mon argent, vu qu'elle ne se gêne pas non plus pour la chose du casque.
Vous lui donnez un bon exemple.
Moi, ça vient d'un caractère altéré de sa nature. On voit toujours quand un homme a bu, mais on ne voit jamais quand il a soif.
Il casse tout à la maison. Il a démantibulé jusqu'au lit.
Oh, pour le lit, ça vient de ce qui n'était pas solide et que j'ai le sommeil lourd.
Le tribunal condamne Birois à 15 jours de prison.
Ah, les femmes font de jolis chefs-d'œuvre.
Oui, ta mère en a fait un beau, c'est vrai.
Affaire suivante. Un besoin impérieux.
Toute la physiologie des dames de la halle pourrait se résumer en ces deux mots. Mauvaise tête et bon cœur. Ou bien encore, la main leste, mais le cœur dessus. Il est donc absolument anormal de voir aujourd'hui, devant le tribunal correctionnel, une de ces dames sur qui s'est abattue la main leste d'une bourgeoise, précisément à propos d'un élan de cœur de la dame de la halle. Voici comment cette dernière raconte le fait.
Je jure devant Dieu et devant les hommes de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. D'ailleurs, il y a ici beaucoup de mes camarades qui vous diront comme par lequel...
Bien, bien. Nous les entendrons.
La vérité est qu'une partie du personnel de la halle est venue à l'audience. Et que plusieurs de ces dames ont été placées dans la salle des témoins en attendant leur défilé à la barre. Tout cela, bien entendu, pomponné, doré, enrubanné, tiré, comme on dit, à quatre épingles. La plaignante.
La chose en un mot, c'est que madame que voici m'a donné une gifle, que tout le monde s'en est retourné et que j'en suis restée comme tombée en putréfaction.
À quel propos la prévenue vous a-t-elle frappée ?
À propos de son pauvre chérubin d'enfant, une mignonne d'amour de petite fille, que cette pauvre chérie, elle avait à ce qu'il paraît besoin de... Ça peut arriver à tout le monde. Dont madame, sa mauvaise mère, la tenait par la main et que la petite pleurait, disant « Maman, j'ai envie !» Alors que madame la secouait par la main, comme étant en colère, et disant « C'est pas pressé, tout à l'heure !» Là-dessus, la petite criait. Alors, toutes mes voisines et moi, ça nous faisait pitié de voir ça, que nous nous mettons à interloquer madame, que, là-dessus, elle nous répond des sottises. Alors, voyant ça, je sors de mon caractère et de ma boutique et je prends l'enfant par la main pour l'amener dans un petit coin. Sa mère la retient ferme. Moi, je veux la faire lâcher en lui ouvrant la main. C'est donc de là qu'à ce moment-là, je reçois une gifle, que j'en ai vu mes carottes toutes bleues.
Le président à la prévenue.
Reconnaissez-vous avoir frappé le témoin ?
Oui, monsieur, je ne dis pas. Mais vous en auriez fait autant à ma place, de voir une personne qu'on ne connaît pas et qui veut se mêler de mon enfant. Ça ne la regarde pas. Je connais bien ma petite fille. C'est des manies qu'elle a. J'étais convaincue qu'elle demandait sans nécessité.
Laissez donc.
Qu'en saviez-vous?
Et vous?
Moi, je connais mon enfant.
Elle n'est pas faite autrement que tout le monde.
Avec ça, messieurs, que toutes les commères de là, des femmes pas polies et très mal élevées?
Possible, mais quand nos enfants ont...
Taisez-vous, madame.
Elles se mettent toutes à m'agonir et à vouloir me forcer à les laisser prendre ma petite. Moi, ça m'a mise en colère. Je sais bien ce que j'ai à faire.
Votre petite fille aussi le savait bien ce qu'elle avait à faire.
En voilà assez.
Mes témoins vous diront...
Nous ne les entendrons pas. Le fait est avoué.
Le président donne lecture de l'article du Code qui punit les voies de fait d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans ou d'une amende.
2 ans ? Ah ! Je suis condamné à 2 ans ! Ah ! Je me trouve mal.
Mais attendez donc, madame. Il ne s'agit pas de 2 ans.
Ah ! Je disais aussi.
Le tribunal la condamne à 16 francs d'amende.
Ah, monsieur, monsieur, je vous remercie. Quand j'ai entendu 2 ans...
Retirez-vous.
Ah ben merci. Pour 16 francs, je ne m'en priverai pas.
À ses camarades qui sortent de la salle des témoins.
Dites donc, 16 francs.
Cœur indigné des dames de la halle. Oh, on les fait sortir.
Affaire suivante. Un cercle vicieux. Un cercle vicieux.
Il vaut mieux faire envie que pitié, dit un proverbe. C'est pour cela sans doute que Savoie, malgré une débine que le mont-de-piété seul connaissait, acceptait volontiers la réputation d'homme à son aise qu'on lui faisait dans son quartier. Peut-être aussi était-ce pour marier plus aisément sa fille. Ce père Savourin, disaient les gens de sa connaissance, il ne dit rien, mais il doit avoir le sac. Il est portier dans une bonne maison. Il exerce en outre, dans sa loge, l'état de cordonnier. Pas de femme à nourrir, puisqu'il est veuf. Son fils a un bon étang en main, peintre en bâtiment. Certainement le bonhomme est à son aise. Et sa fille, Athénaïs, qui est établie blanchisseuse, ne sera pas une mauvaise affaire pour l'ouvrier qui la demandera en mariage. Et voilà comment un jeune perruquier établi en face de la maison de Savourin était arrivé à demander Athénaïs en mariage. La chose ne fit pas un pli, et le jour de l'hyménée était fixé quand se sont accomplis les faits qui amènent en police correctionnelle le père d'Athénaïs, Athénaïs elle-même et son frère, tous les trois pour avoir porté des coups à l'ex-futur époux, car tout est rompu comme dans le chapeau de paille d'Italie.
« Messieurs,
dit le jeune Merlan,
monsieur Savourin qui fait son homme au sac n'est qu'un vieux va-nu-pied. »
Le président.
« Oh, tâchez de vous exprimer autrement. »
Voilà donc la chose. Devant donc nous marier, sa demoiselle et moi, qu'elle me parlait de son amour et qu'elle m'a tapé dessus comme une furie, enfin, voilà donc que, me trouvant avoir besoin d'une couple de pièces de 20 francs pour m'acheter des affaires pour le mariage, je me dis, quand on a un futur beau-père dans l'aisance, il n'y a pas de gêne à lui emprunter ça. Je vais donc le trouver et je lui glisse la chose des 40 francs. Il reste tout ébaubi sur le moment et finit par me dire « 40 francs, faut que je déplace des fonds, demain je vous avancerai ça. » C'est bon que je dis, ça n'est pas à 24 heures près. Vous allez voir ce qui est arrivé. Toute cette famille-là, c'est des fourchettes numéro 1. Tout ce que ça gagne, ça se le fourre sous le nez, dont ils y ont un trou qui leur revient cher d'entretien au bout de l'année, c'est pas pour dire. J'ai su ça après, mais j'aime mieux vous l'expliquer tout de suite.
C'est à désirer et je vous y engage fort. Mais vous n'en prenez guère le chemin.
Le père Savourin va trouver sa fille et lui dit « Athénaïs, prête-moi donc 40 francs. » Athénaïs, qui à ce qu'il paraît n'avait pas d'argent et ne voulait pas le dire à son père, lui répond « Je vous les porterai demain. » Elle s'en va chez son frère et lui dit s'il ne pourrait pas lui prêter une pièce de 40 francs. Le frère, qui mange tout lui aussi, lui répond « Je te prêterai ça ce soir. » Le voilà donc qui vient me trouver et qui me dit « Dites donc, beau frère, vous ne pourriez pas me prêter 40 francs ?» Ah, je ne peux pas que je lui réponde. Oh, pour quelques jours, qui me fait. Si c'est pour quelques jours seulement que je lui dis, je vous les donnerai demain. Venez chez votre père, j'y serai et vous les aurez. Le lendemain, je vais chez le père Savourin et je me trouve avec sa fille Athénaïs qui entrait. À peine si j'étais là que v'là le fils qu'arrive. Alors je prends le père Savourin dans un coin et je lui dis tout bas « Avez-vous les 40 francs ?»« Oui, » qui répond. Alors il dit à sa fille « Athénaïs, donne-moi les 40 francs. » Là-dessus, Athénaïs dit à son frère « Donne donc les 40 francs. » Le frère vient à moi et il me dit « Avez-vous les 40 francs ?»
Mais les coups, arrivez donc au coup.
C'est de là qu'ils sont venus. Parce que voyant que c'était une famille de 100 le sou, j'ai retiré ma demande en mariage. C'est donc de là qu'ils sont tombés tous les trois sur moi.
Nous allons entendre les témoins.
Les témoins, tous locataires de la maison, confirment, relativement au coup, les allégations du plaignant. Si bien que Savourin, père et fils, ont été condamnés chacun à 6 jours de prison, et Athénaïs à 50 francs d'amende.
Affaire suivante. Un rosier qui se compromet.
On couronne des rosières depuis un temps immémorial, mais on n'a pas connaissance qu'on n'ait jamais couronné un rosier. Et cela s'explique au point de vue de l'effet à produire. De la jeune fille choisie pour sa vertu, chacun dit « c'est un ange ». Du rosier, on dirait infailliblement « c'est un serin ». Sauf la mère, peut-être, et encore. Mais il y en a, et la brave dame traduite aujourd'hui en police correctionnelle pour voie de fait est une de ces mères qui couvent leur fils avec la même sollicitude que d'autres veillent sur le capital de leur fille. Il arrive cependant un âge où la garde d'un garçon devient de la haute fantaisie. Ainsi, le fils de Madame Boujal, la prévenue, est d'âge à être militaire. Et son excellente mère ne décolère pas parce que, grâce à certaines demoiselles, il ne pourra pas porter sa candeur sous les drapeaux. Et elle s'en prend à qui? À la sœur de la demoiselle en question, Madame Cardin, plaignante au procès avec l'assistance de son mari, le président.
De quoi vous plaignez-vous, madame?
La plaignante.
Monsieur, je me plains que je passais avec mon petit enfant de 2 ans et demi au bras quand madame s'est élancée sur moi, d'une gifle que j'ai reçue et que mon enfant en a eu 2 bosses au front.
Alors, ce n'est pas vous qui avez reçu la gifle?
Si, monsieur.
Alors, comment est-ce votre enfant qui a eu 2 bosses au front?
La prévenue.
Il sera tombé, comme tous les enfants qui commencent à marcher. Ce que le mien, qu'on m'a débauché dans cette famille-là, on a eu des bosses au front, étant petit.
Enfin, vous reconnaissez avoir porté un soufflet à la plaignante?
Oui, monsieur, pour la chose que je vous dis.
Quelle chose?
Qu'on m'a débauché mon fils.
Pas la plaignante?
Non, sa sœur. Une fille que je ne voudrais pas pour écurer mes casseroles.
Eh bien, pourquoi vous en prenez-vous à sa sœur?
Parce que madame facilitait l'inconduite de mon enfant. Un enfant charmant, monsieur, une vraie demoiselle, ne se dérangeant jamais.
Et quel âge a-t-il?
Il a 20 ans.
C'est très fâcheux, mais enfin, à 20 ans, on ne l'a pas séduit. Il savait bien ce qu'il faisait.
Non, monsieur, c'est elle qui lui a appris. Elle a 22 ans, cette fille-là. D'ailleurs, j'ai 2 témoins.
Les 2 témoins sont 2 jeunes filles, l'une 17 ans, l'autre un peu plus.
Sur quoi voulez-vous que j'interroge le témoin?
La prévenue.
Si mademoiselle sait que mon fils et la sœur de madame avaient des relations.
Le président à la jeune fille.
Répondez.
Oh, en plein.
Même déclaration candide de l'autre jeune fille. Le président à la prévenue.
Vous n'avez rien à dire de plus pour votre défense?
Ah, oh, monsieur, si vous étiez mère, vous comprendriez mon chagrin. Un enfant doux, gentil, sage, qui ne m'avait jamais quitté. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Il a perdu son honneur.
Mais madame, il a 20 ans.
Ah, monsieur, je m'étais habituée à l'idée de la voir toujours sage, rangée.
Et tout cela s'est terminé par 16 francs d'amende.
Affaire suivante. Un bain qui en exige un autre.
Pardon, monsieur le président. Il est certain qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais il ne faudrait cependant pas abuser de ce raisonnement pour échapper à des responsabilités qu'on a encourues. Tout arrive, Talleyrand l'a dit. Donc il doit arriver nombre de choses imprévues. Celui, par exemple, qui aurait prévu l'endroit dans lequel est tombée Madame Pommeau aurait eu du, mettons, du flair. Ça sera plus délicat comme forme et la pensée n'y perdra rien. Cette grosse dame, dont il est plus facile d'apprécier à peu près le poids à la simple vue qu'à bras tendus, est plaignante en blessure par imprudence et partie civile afin de dommages et intérêts. Elle demande 500 francs. En réalité, elle a eu plus de désagréments que de mal proprement dit. Proprement est une façon de parler. Les soins qu'on lui a donnés ont exigé plus d'eau que de compresses. Ses vêtements n'ont pas dû en revenir. Quant à elle, il n'y paraît plus. Heureusement pour la majesté de la justice. La brave dame dont nous avons dit l'énormité a une face qui respire la santé et de telles joues qu'on ne lui voit pas à peu près les yeux, contrairement au bouillon qui en a d'autant plus qu'il est plus gras. C'est Monsieur Champioux, propriétaire de l'immeuble où la plaignante occupe un logement, qui est cité comme auteur de l'accident dont elle a été victime. Laissons d'abord la plaignante raconter cet accident. Elle va d'ailleurs tout de suite au fait, et à la question de Monsieur le Président
« Dites-nous ce qui vous est arrivé !»
Elle répond
« Monsieur, j'étais au lieu. Le dessus s'est effondré et j'ai tombé dans la fosse. »
« De quel étage ?»«
Oh, monsieur, d'en bas. Je revenais dehors, j'y étais entré en passant. Pensez, je demeure au 5e, si j'étais tombé du 5e. »
« Vous avez été blessé ?»«
Du tout, monsieur. La fosse était pleine, heureusement. Ça fait que je n'ai pas eu grand mal. » « Ah, monsieur, c'est un bonheur que la fosse était pleine. Sans ça... »
« Mais comment vous a-t-on tiré de là-dedans ?»«
Oh, monsieur, ça a demandé 2 heures. Il a fallu aller chercher des ouvriers. Personne ne voulait venir. On me parlait d'en haut. Je répondais, « Je crois que je n'ai pas grand mal. Je ne sens rien. »
On n'est venu à votre secours qu'au bout de 2 heures.
Oh non, monsieur, je n'ai pas attendu plus d'une demi-heure. Seulement, ce qui a été long, c'est le sauvetage. On m'achetait des cordes, mais elles cassaient quand on voulait me monter, parce que je suis très lourde.
Enfin, ça n'a pas eu de suite.
Ça a eu seulement la suite que je me suis évanouie. Pas dans la fosse, heureusement, vu que j'ai de la force de caractère. Mais une fois sorti, l'effet s'est produit. J'étais dans un état, personne n'osait me toucher. Comme il faisait chaud à ce moment-là, on m'a mis sous la pompe et on a pompé et pompé. Ah, ton pompé, ça m'a fait revenir de mon évanouissement. Et en ouvrant les yeux, qu'est-ce que je vois? Mon mari. Je veux lui sauter au cou, il n'a pas voulu.
Le président au propriétaire.
« Eh bien, monsieur, vous entretenez bien mal votre propriété. Vous voyez ce qui est arrivé? Cette femme aurait pu se tuer. »«
Oh, monsieur, que voulez-vous? Quand on a le poids de madame, il n'y a pas de solidité qui tienne. »
L'expert a déclaré que le siège d'aisance était absolument pourri.
« Je l'ignorais. Il n'était jamais rien arrivé. Personne ne s'était plaint. »
Le tribunal condamne cet imprévoyant propriétaire à 16 francs d'amende et 200 francs de dommages et intérêts.
Affaire suivante. Un drame en wagon.
Si grands que soient les torts de Madame Tambour envers M. Portefoin, il faut reconnaître que cette dame, qui est d'un certain âge et d'un embonpoint plus certain encore, abandonne volontiers les privilèges de son sexe. Seule, en wagon, avec le monsieur susnommé.
« Je n'exigeais de lui,
dit-elle,
ni galanterie, ni attention, ni amabilité. Je ne lui ai demandé que des satisfactions d'un ordre inférieur, comme de fermer le carreau et d'éteindre son cigare. »
Tout le procès correctionnel dont il s'agit est là. Car là est le point de départ d'une scène dont M. Portefoin a été victime, ce que prouve suffisamment son visage encore labouré de coups d'ongle. Et c'est heureux pour lui, au point de vue du gain de son procès, bien entendu, puisqu'il n'existe aucun témoin de cet épisode de voyage, survenu en tête-à-tête, comme on le sait. Une dame, pourtant, a été citée par la prévenue pour faire connaître au tribunal l'excellent caractère de Madame Tambour, son amie.
« On ne peut lui reprocher qu'une petite chose. Elle est un peu pointue, »
dit le témoin, et cette brave amie va s'asseoir sur cette appréciation sans nous dire de quelle façon Madame Tambour est pointue. C'est qu'en effet, on peut l'être comme une vrille, comme une épée ou comme une seringue, mais peu importe. L'irascible dame est pointue des ongles. Elle reconnaît les avoir enfoncés dans le visage du plaignant. C'est l'important. Seulement, elle est convaincue que le tribunal comprendra la légitime colère dont elle a été saisie quand il connaîtra ce qui l'a fait éclater. Racontons donc la scène du wagon. Madame Tambour.
Monsieur, je vous prie de fermer votre carreau.
Monsieur Portefoin.
Madame, vous avez fermé le vôtre, je ne m'y suis pas opposé.
Vraiment ? Vous m'avez fait la grâce de me laisser fermer le carreau qui est de mon côté. C'est bien aimable à vous.
Il n'y a pas d'amabilité là-dedans, madame. Vous avez usé de votre droit, j'use du mien. D'ailleurs, comme je fume...
Vous allez fumer ? Vous n'en avez pas le droit. Il y a des wagons de fumeurs, allez-y.
À ce moment, un aboiement sourd se fait entendre dans un panier placé près de la vieille dame et sur le couvercle duquel elle appuie sa main.
C'est vrai, madame, il y a un wagon pour les fumeurs, mais il y en a aussi un pour les chiens. Il fallait y mettre le vôtre.
À ces mots, le voyageur tire de sa poche un cigare et l'allume.
« Monsieur, votre cigare m'empoisonne. »«
Madame, si vous croyez que votre chien sent l'eau de Cologne, moi je ne le trouve pas. »«
Monsieur, retirez votre cigare. »«
Madame, retirez votre chien. »
En réponse à cette injonction, Madame Tambour se lève furieuse, arrache le cigare de la bouche du fumeur et le jette par la portière.
« Très bien, madame. »
Sur ce, il se lève, arrache le toutou du panier et l'envoie rejoindre le cigare. De là, la scène de fureur de Madame Tambour. Tels sont les faits qui ressortent de la plainte et de la défense, et que nous avons groupés dans leur ordre. Le président.
Je dois vous faire remarquer, à vous, monsieur, et à vous, madame, que tous les deux vous étiez dans votre tort. L'un en fumant, l'autre en introduisant un chien dans un compartiment de voyageurs.
Madame avait le droit de se plaindre au chef de gare.
Oui, et jusque-là, j'aurais été empoisonnée par votre horreur de cigare.
Oh, en fait d'horreur, parlez plutôt de votre chien, une infection, une sale bête que personne n'aurait voulu toucher.
Oh, ce n'est pas assez d'avoir été son bourreau, vous l'insultez encore après sa mort. Vous l'avez bien osé y toucher, vous?
Pour le jeter par la fenêtre, oui, mais autrement, jamais de la vie.
Enfin, madame, vous avez été très violente.
Un chien rare.
Dans son genre, c'est vrai.
Que je n'aurais pas donné pour 500 francs.
J'ai assez bonne opinion de mes concitoyens pour supposer que pas un ne vous les aurait offerts.
Je vous répète, madame, que vous avez été très violente. D'abord, en arrachant le cigare de la bouche du plaignant qui était dans son tort. Mais il fallait vous plaindre. Ensuite, vous vous êtes livré à des excès incroyables, à une véritable scène de fureur.
Comment, monsieur ? En voyant jeter par le carreau ma malheureuse petite bête, qu'il la tenait par la queue, faisant le mouliner avec, que le pauvre petit animal jetait des cris qui fendaient le cœur. Ah ! quand je l'ai vu tourner dans les airs, j'ai reçu un coup.
Si je n'en avais reçu qu'un, moi, de vos griffes.
Si j'avais pu vous arracher la peau.
La prévenue est interrompue par le prononcé du jugement qui la condamne à 100 francs d'amende. Cette condamnation indulgente ne la calme pas. Elle continue à être boursouflée par la colère, cette brave dame tambour, à craindre de voir crever sa peau.
L'audience est levée.
Donneur de voix ayant participé à ce projet collectif, Hespéridée, Christine Sétrin, Cocotte, Milady, Alain de Gante, Christophe Ménager, Bernard, Florent, Vincent de Lépine et Lemoco, avec l'aimable participation de Chantal Hélène et Jean Aubian.